Bonjour à tous. Donc, on a finalement décidé de faire un topo commun pour éviter justement de dire plusieurs fois la même chose. Alors, donc parmi les quatre, hormis les incompatibilités ABO, les quatre antigénicités les plus fréquemment responsables d'incompatibilité fœto-maternelle sont lequel ? Et trois antigènes du système rhésus, l'antigène D qui est codé par le gène D, le petit C et le grand E qui sont codés par le gène RHCE, les antigènes grand C et petit C sont d'expression codominante et on dit qu'ils sont antithétiques, c'est-à-dire que quand on est grand C moins, on est forcément petit C plus, hormis les groupes rares. Et quand on est petit C moins, on est forcément grand C plus. Voilà. Et puis j'ai rappelé que donc les quatre antigènes les plus fréquemment, l'immunogénicité de ces antigènes donc les plus fréquents, le petit C est donc le quatrième antigène le plus fréquemment, immunogène. Pardon.
Donc depuis qu'on utilise l'immunoprophylaxie pour la prévention de l'aluminisation anti-D, donc dans les années 70, l'incidence de l'aluminisation anti-D ou anti-RH1 en nomenclature internationale a beaucoup diminué. Donc là, vous voyez sur les données américaines, on voit que l'aluminisation anti-D en 1969, ça marche pas, mais... En 1969, on voit que l'incidence de l'aluminisation anti-D était de 16 pour 1000 naissances. Et depuis qu'on utilise la prévention, en 1996, ça avait diminué à 2,7 pour 1000 naissances. Et donc, de ce fait, on voit qu'il y a une augmentation relative des autres aluminisations, comme lequel, le grand E et le petit C, qui augmentent parce qu'il n'y a pas d'immunoprophylaxie pour ce type d'aluminisation. Donc, selon les données d'Yves Brossard du CNRHP qui datent de 2002, l'incidence des cas symptomatiques, donc c'est-à-dire de l'occurrence d'une maladie hémolytique fœtale et néonatale, c'est 0,8 cas pour 1000 naissances pour l'anti-D, et pour l'anti-petit C, c'est 0,1 cas pour 1000 naissances, et pour lequel 0,05 cas pour 1000 naissances. Donc, quand on voit la distribution des différents types d'alloimmunisation pendant la grossesse, l'anti-grand D est le plus représenté quand même, avec 88% d'incompatibilité fœto-maternelle sévère qui sont liées à un anti-grand D. L'anti-petit C représente 8% de ces alloimmunisations. Et lorsqu'on regarde les données hollandaises pour les transfusions fœtales, il y a 3,5% de transfusions fœtales qui sont faites pour une alloimmunisation anti-petit C. Et c'est l'anti-grand D qui reste majoritaire avec 85% et lequel 10%. Dans une étude qu'on a très récente nationale où on a vu toutes les transfusions in utero qui ont été faites en France, donc là il y a toutes les causes confondues, même pas que les alloimmunisations, on voit que l'alloimmunisation anti-petit D représentait 3% des indications de transfusion fœtale. Donc dans tous les centres français sur 815 transfusions. Alors, la particularité de l'anti-petit C, c'est qu'on peut le découvrir parfois au deuxième ou troisième trimestre et souvent aussi à l'accouchement. Et donc là, c'est sur une cohorte de 147 grossesses qui ont été suivies au CNRHP. Donc ça peut être dans des centres, différents centres en France, mais qui ont demandé un avis au CNRHP. Donc on voit qu'il y a 42% des alloimmunisations qui étaient connues avant la grossesse, 14% au premier trimestre, 12% découverte au deuxième, 17% découverte au troisième trimestre et 14% à l'accouchement.
Alors, le problème de la sensibilité des RI pour la détection d'anti-petit C. Je sais pas si vous t'entends bien. Ouais. Alors, actuellement, le calendrier, les recommandations. Ouais. Actuellement, les recommandations HAS 2007 sont les suivantes pour le calendrier de RAI pour les femmes enceintes. Chez les patientes qui sont RH-1 ou qui sont RH1 avec un antécédent transfusionnel, il y a trois RAI d'intérêt fœtal qui sont préconisées, une au premier trimestre, une au sixième mois, une au huitième mois. Et ensuite, deux RAI qui sont dits d'intérêt maternel, c'est-à-dire transfusionnel. Une RAI au début du huitième mois, une RAI au moment de la consultation anesthésie, puis une RAI au moment de l'entrée en salle de travail. Pour les femmes qui sont RH1, il y a une seule RAI d'intérêt fœtal qui est préconisée au premier trimestre. Et bien sûr, les deux RAI d'intérimaire maternel, la RAI au cours de la consultation d'anesthésie et la RAI à l'entrée en salle de travail. Donc, le calendrier des RAI est moins drastique pour les patientes RH1 que pour les patientes RH-1. Et les patientes qui sont à risque d'alluminisation en type TC sont de phénotype grand D positif pour la majorité et donc de phénotype grand C, petit E pour la majorité. Donc, il faut que cette RAI du premier trimestre soit particulièrement sensible pour dépister les anticorps d'intérêt obstétrical. Il y a une étude hollandaise qui date de 2008 qui portait sur un bilan du screening des RAI qui était fait au premier trimestre et qui montrait en fait que pendant... Donc ils ont pris l'ensemble des maladies hémolytiques du nouveau-né pendant 2 ans et ils se sont rendus compte que parmi ces maladies hémolytiques du nouveau-né, il y avait 8 cas qui n'avaient pas pu être anticipés puisque en fait les RAI maternelles étaient négatives au premier trimestre et qu'il n'y avait pas eu ensuite de RAI. Et pour 8 d'entre elles, il y avait quand même eu 7 exsanguinotransfusions. Et parmi ces 7 exsanguinotransfusions, en fait, il y avait quand même 5 RAI qui étaient positives en type TC. Parmi ces 7 exsanguinotransfusions, il y a eu un cas d'ictère nucléaire et un cas d'hémorragie intracérébrale. La conclusion de l'article, c'est une sensibilité au dépistage des anti-RH4 au premier trimestre qui est seulement de 76%. Alors, la recherche d'anticorps anti-érythrocytaires, donc la technique préconisée, c'est un test indirect à l'antiglobuline. Pour certains anticorps, et en particulier l'antype TC, on peut utiliser des enzymes, donc, telles que la papaïne, qui, en diminuant les charges électrolytiques à la surface des globules rouges, permet de diminuer la distance entre les globules rouges et de faciliter l'agglutination. Cependant, donc... malheureusement, donc il y a beaucoup plus de réactions aspécifiques, ce qui fait qu'il y a des difficultés d'interprétation. Et donc, en 2002, il a été décidé d'arrêter l'utilisation de cette enzyme dans le cadre des RAI. Donc, quelle est la sensibilité de la RAI au premier trimestre avec notre technique, compte tenu du fait que la majorité d'entre nous, en fait, n'utilise pas la papaïne pour la RAI? Alors, au CNRHP, à l'occasion de l'arrivée d'un nouvel automate, on a testé les RAI de différentes techniques vis-à-vis de 80 sérums de patientes qui avaient plus de 14 spécificités antigéniques. Et on a pu s'assurer ainsi que notre automate était assez sensible pour justement rendre les anticorps d'intérêt obstétrical au premier trimestre. Donc au total, on a une RAI au premier trimestre qui n'est pas forcément très sensible pour les patientes qui éventuellement pourraient avoir une immunisation infrasérologique. On a aussi le problème des patientes, comme l'a montré Emeline, qui s'immunisent après le premier trimestre. Et on sait qu'avec l'anti-RH4, on peut avoir de fortes réactivations dès le deuxième trimestre de grossesse. Donc certains cas d'immunisation sévère avec retentissement fœtal peuvent être dépistés tardivement, voire trop tardivement.
Donc on avait vu que les recommandations de la HAS étaient de faire des RAI au premier trimestre et aussi à 28 semaines pour les patientes résuscitées négatives. Mais du coup, on n'en fait pas pour les autres patientes. Donc une étude hollandaise a voulu voir s'il y avait un impact de réaliser des RAI à 27 semaines pour les patientes. Bon, évidemment, ils le font pour les résultats négatifs, mais à partir de 2011, ils ont regardé si ça avait un impact de le faire pour les patientes qui sont RH4 négatives, pour voir si on pouvait mettre en évidence des immunisations qu'ils appellent tardives, c'est-à-dire fin de deuxième trimestre, début du troisième trimestre. Donc, ils ont leurs issues, donc c'était de voir l'incidence de la maladie hémolytique fœtale et néonatale sévère, qui était définie par une transfusion fœtale ou néonatale dans la première semaine de vie, et de voir également l'incidence de la maladie hémolytique fœtale et néonatale modérée définie par l'indication d'une photothérapie. Ensuite, ils ont fait une étude cas témoin pour voir les facteurs de risque associés à l'alluminisation anti-RH4 tardive. Donc, ils ont fait une étude sur une grande cohorte prospective sur plus de 62 000 patientes qu'ils ont recrutées sur 2 ans. Donc, ils recrutaient toutes les patientes qui étaient RH4 négatives avec des RAI négatives au premier trimestre. Et après, pour l'étude cas témoin, ils ont les témoins, c'était les 3 patientes RH4 screenées, suivant la patiente qui avait une alluminisation anti-RH4 tardive pour voir les facteurs de risque de développer cette alluminisation tardive. Donc le flowchart, c'est pour récapituler, donc 62 000 patientes incluses, et parmi ces 62 000 patientes, il y a 99 cas de maladies hémolytiques fœtales et néonatales. Donc du coup, pardon, excusez-moi, c'est d'alomisation tardive. Donc ça veut dire qu'il y avait une incidence de 0,16% d'alomisation tardive chez ces patientes RH4 négatives avec des RAI donc négatives au premier trimestre. Parmi le type d'alomisation tardive, il y avait 90% d'antipty-C, anti-grand E et 10% d'autres anticorps qui n'appartenaient pas au système rhésus. Et l'occurrence d'une maladie hémolytique fœtale et néonatale, c'était plus faible. Il y avait 2 cas de maladie hémolytique sévère et 20 cas de maladie hémolytique modérée. Et il y avait une survie périnatale de 100%. Donc, ils ont du coup calculé qu'il fallait screener 628 patientes pour détecter une alomisation tardive, donc à 27 semaines. Et pour détecter une maladie hémolytique fœtale et néonatale, il fallait screener 2823 patientes. Donc c'est quand même assez important, mais ces enfants qui ont eu une maladie fœtale sévère, et les deux avaient des séquelles neurologiques. Donc, ils ont regardé aussi les facteurs associés à l'alomisation tardive. Ils ont vu que c'était surtout les patientes qui avaient des antécédents personnels de transfusion. Et c'était aussi plus les primis et multipares par rapport aux nullipares. Et le fait d'avoir un geste invasif, ça on le sait, c'était plus associé à une immunisation tardive au cours de la grossesse. Donc, ce qui suggérait un mécanisme de réponse immunitaire secondaire. Donc cette étude, la conclusion des auteurs, c'est qu'il y a un intérêt de faire une RAI au début du troisième trimestre chez les patientes qui sont RH4 négatives et qui avaient, même si elles avaient des RAI négatives au premier trimestre.
Alors, une fois qu'on a retrouvé une RAI positive anti-RH4, il faut quantifier cet anticorps. Donc là, je vais passer vite, puisque Cécile a déjà bien détaillé. Donc, on peut le titrer en Coombs indirect en technique tube. Malheureusement, le titrage est souvent fait pour les anti-RH4, qui sont des anticorps qui sont peu affins, même en présence d'une concentration élevée en anticorps. Bon, on a décidé que le titrage anti-RH4 à 4 était le titrage qui était la limite pour le risque de retentissement fœtal. Et il y a donc un manque de sensibilité de la technique et des réactivations d'immunisation qui sont vues plus tardivement que le dosage pondéral. Je reviens après. Donc il faut faire attention pour les anti-RH4 au titre faussement rassurant. À côté de ça, donc on fait en parallèle le dosage pondéral, qui est une mesure continue plus précise, reflet de la concentration totale en anticorps. Lors des réactivations d'immunisation, comme l'a montré Cécile, le dosage pondéral augmente bien souvent avant le titre. Et le seuil critique de 500 unités CHP a été décidé. Enfin, c'est ce seuil critique qui décide de mettre en place une surveillance clinique plus adaptée, en particulier des vélocimétries à l'artère cérébrale moyenne. Une étude a été faite au CNRHP qui montrait qu'en plus, une concentration supérieure à 1000 unités CHP en anti-RH4 en fin de grossesse était également prédictive d'une atteinte postnatale plus sévère, avec des titres qui, quelquefois, étaient même juste à 8. Donc, en fait, le dosage pondéral permet une surveillance affinée et une meilleure anticipation, aussi bien en anté qu'en postnatal. Juste un cas clinique, il y en aura d'autres après. Madame G est une dame primigeste, date de début de grossesse en août 2013, et il n'y a pas de RAI qui a été faite pendant la grossesse, puisque la dame était dépositive. À 35 semaines, elle consulte fin mars 2014 pour une mort fœtale in utero. Et à la RAI, on retrouve un anti-RH4 et un anti-RH3. Les prélèvements sont envoyés au CNRHP. Et là, le titrage en technique Coombs donc, était à 128 pour l'anti-RH4, alors qu'il était inférieur à 2 pour l'anti-RH3. Et le dosage pondéral en 2 temps à 8700 et en 1 temps à 5100. À la phétopathologie, il y avait une anémie profonde avec une érythroblastose très importante. Et en fait, donc, l'anti-RH4 était responsable de la mort fœtale. En reprenant les sérotextes de toxoplasmose qui ont été faites tous les mois, c'est-à-dire 7 prélèvements, on voit que dès le premier prélèvement, en fait, cette dame était immunisée et que dès le 21 novembre, on voit que le dosage pondéral commence à monter le 27 décembre et le 30 janvier, donc déjà 280, donc des titres qui sont déjà importants, et on a le titre qui commence à monter seulement sur le prélèvement d'après. Donc, vraiment, un début de réactivation qui est vu plus précocement sur le dosage pondéral que sur le titrage pour l'anti-RHC. Un tableau récapitulatif du suivi biologique des immunisations anti-RH4, la fréquence des dosages entre 18 et 28 semaines d'aménorrhée est liée à la concentration au dosage pondéral. Si celui-ci est inférieur à 100 unités CHP, on le dose tous les mois jusqu'à 28 semaines d'aménorrhée. S'il est supérieur à 100, on le dose toutes les deux semaines. Et à partir de 28 semaines, quel que soit le dosage pondéral, on dose toutes les deux semaines. Et le risque fœtal est présent à partir d'un titre supérieur à 4 et un dosage pondéral supérieur à 2000 dès 18 semaines d'aménorrhée. Quand celui-ci est à 1500, quand la dame est à 24 semaines d'aménorrhée, le risque fœtal est présent des 1500 unités CHP. Quand la dame est à 28 semaines, le risque fœtal est présent des 1000 unités CHP. Quand elle est à 32 semaines, des 750 et quand elle est à 36 semaines, des 500 unités CHP. Une étude a été menée par une interne au CNRHP entre août 2011 et juillet 2014 sur les 25 000 patientes qui ont été suivies au CNRHP. 1140 avaient une immunisation anti-petit C, c'est-à-dire 4,5%. 12% de ces patientes avaient un dosage pondéral qui était supérieur à 1000 unités CHP. Et parmi ces 136 dossiers, il y a 61 grossesses pour lesquelles on a pu retrouver des données cliniques. 43 d'entre elles avaient eu une réactivation au cours de la grossesse qui a été détectée par le dosage pondéral avant le titrage. Et 35 patientes avaient été en fait mal suivies, donc un suivi tardif, c'est-à-dire juste un dosage pondéral et un titrage qui avait été envoyé qu'au dernier trimestre, un non-respect des fréquences de dosage comme c'était marqué dans le tableau précédent, et des RAI qui étaient faussement négatives au premier trimestre, en les reprenant a posteriori, en fait elles étaient bien positives.
Donc maintenant on va parler de la prise en charge plutôt des obstétriciens. Donc dès que... voilà, un tableau récapitulatif. Donc dès qu'on a des anti-RH4 qui sont identifiés, on sait qu'il va falloir faire le titrage et le dosage pondéral. Donc je pense vraiment qu'il y a une particularité pour l'anti-RH4, c'est que le dosage pondéral, on voit les réactivations de manière beaucoup plus précoce que pour le titrage. Donc nous, on dose systématiquement les deux. Donc si on a un dosage pondéral, et on tient vraiment compte surtout du dosage pondéral, donc si on est en dessous de 500 unités CHP, on sait qu'il n'y a pas de risque d'anémie fœtale, donc la patiente elle a son suivi classique, et puis après la fréquence de prélèvement, Hélène l'a expliqué, ça dépend de la gestationnelle et de la concentration. En revanche, si on a un anti-RH4 qui est supérieur à 500 unités CHP, là on sait qu'il y a un risque d'anémie fœtale, et on enclenche la surveillance par Doppler de l'artère cérébrale moyenne, de manière hebdomadaire, et on fait accoucher les patientes à 37 semaines d'aménorrhée. On commence dès 20 semaines d'aménorrhée la surveillance, mais s'il y a des patientes qui ont déjà eu des anémies fœtales avec des transfusions plutôt lors des grossesses précédentes, on commence le Doppler dès 16 semaines d'aménorrhée. Évidemment, en parallèle, il faut voir s'il y a une incompatibilité fœto-maternelle. Donc on peut parfois le déduire juste sur le phénotype du conjoint. S'il est homozygote petit c, on sait qu'il y a 100% de risque d'incompatibilité. S'il est grand C, on sait qu'il n'y aura pas de risque et on lève la surveillance. Et s'il est hétérozygote, du coup, on peut faire le génotypage. Il faut revenir en arrière. Ouais.
Donc, au CNRHP, on propose le génotypage RHC fœtal non invasif chez toutes les femmes immunisées anti-RH4, quelle que soit la concentration d'anticorps, parce qu'il y a un risque de réactivation, dès 13 semaines d'aménorrhée, et comme Emeline vient de le dire, chez les patients dont le procréateur est hétérozygote RH2-RH4. Si le fœtus est génotype RH+ positif, ça justifie une surveillance beaucoup plus lourde puisqu'il y a une incompatibilité fœto-maternelle. Si le fœtus est RHC négatif, on peut lever une surveillance beaucoup plus, enfin, on peut avoir une surveillance beaucoup moins lourde.
Maintenant, je vais vous montrer des cas cliniques qui illustrent très bien la particularité de la luminisation anti-petit C. Alors, tout d'abord, Madame B, une patiente de 39 ans, 7e geste, 2e part, qui elle-même n'a pas été transfusée. Sur le plan obstétrical, elle avait eu 2 IVG, une césarienne avec des RAI négatifs pendant cette grossesse, un enfant qui allait bien. puis une fausse couche tardive. Et ensuite, en 2004, elle était suivie avec des RAI prélevés comme il le fallait à 14 semaines, avec un dosage pondéral à 2800 unités CHP. Donc déjà supérieur à 2000, donc à risque. Et après, il y a eu un bug, pas de surveillance des RAI, et la patiente a été césarisée à 32 semaines d'aménorrhée pour anomalie du rythme cardiaque fœtal avec un enfant qui était en anémie sévère à 3 grammes et qui est décédé à J6 de vie. Et donc, ces patientes, on leur conseille toujours d'attendre 2 ans avant de refaire une grossesse et on surveille le dosage pondéral tous les 6 mois. Et cette patiente, elle avait 10 000 unités CHP à 4 mois postpartum, ce qui est vraiment énorme. Donc ensuite, en 2006, là, cette grossesse s'était mieux suivie. Elle a eu une surveillance par Doppler de l'artère cérébrale moyenne. Il y a eu deux tentatives de transfusion fœtale, mais qui ont échoué. Et le dosage pondéral était moins élevé que pour la grossesse précédente. Juste avant l'accouchement, il était à 2570 unités CHP à 34 semaines. Et devant l'impossibilité de faire des transfusions, elle a été césarisée avec une fille qui avait une anémie légère à 11 grammes et une bilie élevée à 114 à la naissance, qui a eu de la photothérapie et des transfusions postnatales à J6 et J13. Ensuite, cette patiente, elle a été suivie au CNRHP en 2013. Donc, heureusement, il y a eu 7 ans entre les deux grossesses qui a permis de faire diminuer le taux d'anticorps. Et quand on l'a vue pour la première fois à 8 semaines d'aménorrhée, elle avait un titre d'anti-RH4 à 1/16 et un dosage pondéral à 935 unités CHP. Donc voilà, là, le tableau, elle a bien fait tous ses dosages toutes les 2 semaines. Et on voit qu'il y avait des dosages qui étaient parfaitement stables sur toute la grossesse et qu'il y a une réactivation qui survient à 34 semaines d'aménorrhée, enfin entre 34 et 36. Donc on l'avait bien suivi avec des dopplers de l'artère cérébrale moyenne, vous voyez en haut, elle a bien eu, vu ses antécédents, une surveillance échographique à partir de 16 semaines d'aménorrhée. Et il n'y avait pas du tout de signe d'anémie. On voit de manière longitudinale que les vitesses augmentent, même si elles ne dépassent pas 1,5 multiple de la médiane. C'est moi qui avais fait la dernière écho, j'avais des vitesses à 1,15 mom. J'avais pas du tout d'épanchement, mais je trouvais vraiment qu'il y avait une hépatospléno-mégalie et j'avais appelé Anne pour lui dire que je pensais que c'était le moment de le faire naître. Et donc on a fait la cure de Célestène parce que on avait prévu de faire une césarienne pour utérus tricicatriciel et on le fait parce qu'on considère que c'est des fœtus fragiles pour éviter qu'ils aient en plus une détresse respiratoire surajoutée. Et donc là, elle a donné naissance à une fille de 2,6 kg qui avait une anémie à 7,9 g, une bilie à 155 à la naissance et qui a eu une exsanguinotransfusion à H6, puis qui a été transfusée à 3 semaines de vie. Ensuite, un deuxième cas clinique qu'on a suivi au CNRHP. Donc c'est une patiente qui avait aussi de lourds antécédents obstétricaux. Elle avait eu d'abord un petit garçon en bonne santé et on a découvert des RAI anti-RH4 à l'accouchement et son enfant n'a pas eu d'ictère ni de transfusion. Et puis après, en 2012, elle a été de nouveau enceinte avec le même conjoint. Des RAI ont été faites selon les recommandations à 12 semaines, donc avec un titre à 1,5, ce qui était plutôt rassurant, un dosage pondéral à 115. Et ensuite, il y a eu un contrôle à 24 semaines avec un titre à 1. Donc, je pense que du coup, les gens ont un peu levé la surveillance. Et ce qui fait que à 32 semaines, elle a consulté pour diminution des mouvements actifs et on a constaté une mort fœtale in utero sur une anasarque. Et là, vous voyez la discordance entre le titre qui était seulement à 1/4, donc qui aurait été plutôt rassurant, mais le dosage pondéral qui était très élevé à 8500 unités CHP. Donc, si on avait suivi par dosage pondéral, je pense qu'on aurait été alerté bien plus tôt. Ensuite, la grossesse suivante en 2013, donc là, elle a attendu 1 an entre les 2 grossesses. Elle a été très bien suivie avec des dosages réguliers. Et juste avant de faire la première transfusion à 20 semaines, il y avait des dosages très élevés à 3700 unités CHP. Il y a une transfusion qui a été réalisée à 20 semaines, mais malheureusement avec une mort fœtale in utero le lendemain sur un hématome du cordon. Et du coup, on avait un titre en postpartum qui était très élevé, à 1,64 à 6 mois postpartum, et un dosage pondéral toujours très élevé à 4000 unités CHP. Donc là, la patiente a vraiment attendu 2 ans pour recommencer une nouvelle grossesse. Malheureusement, son conjoint, il est ptissé homozygote, donc il y a 100% d'incompatibilité pour toutes ses grossesses. Et on l'a vu pour la première fois à trousseau à 6 semaines d'aménorrhée. Donc elle avait toujours son titre à 1,64, et là on trouvait que c'était vraiment une patiente candidate à la mise en place d'immunoglobuline hebdomadaire vu la lourdeur de ses antécédents, et donc on a commencé dès 11 semaines d'aménorrhée. On voyait que là, elle avait des taux déjà très élevés d'anti-RH4. Et dès qu'on a commencé les immunoglobulines, on a vu une décroissance impressionnante. Et puis après, qui est restée stable pendant toute la grossesse. Donc, pour répondre à votre question, Emmanuel, là, on a continué du coup les immunoglobulines jusqu'à 36 semaines d'aménorrhée. Et on serrait les fesses à chaque échographie parce qu'on disait, ça y est, ça va être maintenant la transfusion. Mais le Doppler, l'artère cérébrale moyenne, était toujours nickel. Et même à 36 semaines, il y avait des vitesses parfaites. On savait qu'il y avait une réactivation juste avant l'accouchement avec une augmentation des anti-RH4. Et on l'a déclenché à 37 semaines. Elle a donné naissance à un enfant avec 16,9 g d'hémoglobine, une bilie à 44, qui a eu 3 jours de photothérapie et qui a été transfusée à 3 semaines de vie. Donc je trouve que ces cas cliniques utilisent très bien la luminisation anti-RH4, où on voit que souvent il y a un défaut de surveillance, parce qu'il y a des titres qui sont très rassurants, et puis que si on avait fait un dosage pondéral, on aurait été alerté beaucoup plus vite.
Alors, en conclusion, donc l'anti-RH4 peut être présent dès la première RAI ou être présent après. Il y a un intérêt des techniques enzymatiques, mais c'est vrai que ce n'est pas souvent utilisé sur la RAI. Donc, c'est important de connaître la sensibilité de sa technique. Mais c'est vrai que finalement, ce qui serait pas mal, ça serait de rajouter une RAI au début du troisième trimestre pour les femmes qui sont RHD positifs, petit C moins, voire grand E moins. En anténatale, il y a une réactivation fréquente avec un titre qui est souvent faible et qui augmente tardivement en cas de réactivation. Il y a donc vraiment un intérêt du dosage pondéral pour la mise en place d'une surveillance clinique anticipée. Et donc, il faut sensibiliser les obstétriciens, les sages-femmes et les pédiatres pour un suivi en anténatale, donc comme on disait, avec un calendrier absolument à respecter. Pour le suivi clinique et échographique.
Donc nous, on commence le Doppler de l'artère cérébrale moyenne dès qu'on dépasse le seuil de 500 unités CHP. On le fait de manière hebdomadaire. Donc on a vu que la luminisation anti petit C, ça représente que 2% des transfusions réalisées en France. Mais ça peut être très grave avec une maladie hémolytique qui commence dès la vie fœtale. Et comparativement aux autres alloimmunisations, c'est une forme qui est plutôt manifestation au troisième trimestre et postnatale, donc plus tardive, et ça peut être très sévère. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire un suivi en postnatal que va vous expliquer le docteur Corté.